Sous les lumières blafardes des amphithéâtres se tisse le récit de l'Ascension. Bienvenue dans l'univers mystérieux des classes préparatoires, cette fabrique élitiste où se sculpte la jeunesse dominante de demain. Muriel Darmon, dans son livre sur les classes préparatoires, nous plonge au cœur de cet écosystème éducatif méconnu et déchire le voile des idées préconçues, révélant la complexité de ses mécanismes. Accusée de tous les torts, tour à tour décriée comme fossoyeuse de génie ou encensée comme pépinière d'élite, les prépas demeurent une énigme. Aujourd'hui, on accueille Cléo qui va nous parler de son parcours scolaire de façon anonyme. Celle d'une femme de classe populaire qui atterrit en classe préparatoire alors que la vie de base lui réservait tout un autre chemin.
Hey, c'est Léa. Bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas ». Le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant.
La qualité d'un transfuge ou son défaut, c'est le fait de prendre autant de normes du milieu de ses parents. Donc moi, mes parents venant d'un milieu qui, quand ils étaient jeunes, étaient assez populaire, voire au début de la classe moyenne. Et dans mon cas, j'ai toujours senti ce micmac d'être avec des personnes qui avaient un niveau de social peut-être plus élevé que le mien, également un niveau social un peu plus populaire. Ce qui m'a permis en fait de pouvoir jongler avec ces deux milieux. Ce qui n'est pas vraiment facile, parce qu'en fait, d'un point de vue de l'éducation, ça se ressent. Et ça a été d'autant plus compliqué dans ma vie que justement, on va dire que j'ai grandi dans ce type de milieu où en fait on était nouveau riche. Et aussi pas mal de personnes qui avaient hérité. Donc voilà, j'ai quand même grandi dans un milieu aisé où en fait moi j'ai subi du harcèlement scolaire. Donc en fait, j'ai toujours été très en colère contre mon milieu d'origine. Et je préfère être franche là-dessus parce que je connais très bien mes biais. Je sais très bien d'où je viens et où j'ai eu la chance dans ma vie que je pouvais poursuivre mes études, travailler et ne pas avoir de contraintes financières. Ce qui va pas être le cas dans beaucoup de ce qui va pas être le cas souvent, on va pas se le cacher. Donc sur un certain nombre de points, je suis très privilégiée. À ceci près que je suis une personne 10, que j'ai vécu du harcèlement scolaire et que donc j'ai quand même une manière d'aborder le travail comme quelque chose où je me suis accrochée à l'école parce que en fait, d'un point de vue social, j'étais complètement déconnectée. Et de ce fait, je suis passée de personne cancre à où je me suis retrouvée dans un lycée où j'ai fini première de classe. Donc on va dire que c'est mon parcours scolaire et j'ai vraiment beaucoup évolué dans le milieu moyen supérieur jusqu'au collège. Et à partir du moment où mes parents se sont dit ça serait peut-être bien qu'on la fasse aller dans un autre endroit pour qu'elle se sente peut-être plus épanouie, donc je suis allée en lycée ZEP, donc où ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui lycée REP, tu sais, zone d'éducation prioritaire, où en fait moi je me suis retrouvée dans un milieu qui était beaucoup plus pauvre, où honnêtement c'est une chose que je dis très souvent, les personnes avec qui j'ai côtoyé, c'était des personnes qui étaient très calmes, c'était des personnes qui avaient envie de bosser et qui embêtaient personne. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai vraiment vu des personnes qui cherchaient vraiment à se battre, à avoir leur bac. Et je pense que pour beaucoup, c'était déjà beaucoup. Au lieu de prendre justement le lycée de proximité, on a choisi un lycée qui était un tout petit peu plus loin. Mais quand je te dis un petit peu plus loin, c'était 5 minutes à pied. Et justement, moi, je me suis retrouvée dans un lycée, donc dans mon lycée, et où tout s'est très bien passé parce que justement, j'étais pas avec les gens qui m'avaient harcelé pendant des années. Mais où en fait, j'ai eu quand même une carence sociale qui, je pense, ne s'est toujours pas résorbée aujourd'hui et qui fait néanmoins ma force, et qui fait que je pense que je me suis quand la sociologie a frappé à ma porte, je lui ai dit « Viens, rentre et prends un café, s'il te plaît ». Et c'est peut-être pour ça que je, que mon point de vue d'école de commerce est peut-être très différent de ce que tu peux retrouver chez beaucoup d'étudiants. Je me suis retrouvée, malgré moi, première de classe, et sûrement pour X ou Y raison, le travail avait fait beaucoup, mais on va dire que toutes les méthodes que j'avais pu engranger au fur et à mesure de ces années ont joué là-dessus aussi. On va pas, enfin, comme je te le dis tout à l'heure, je sais où est-ce que j'ai pu être aidée, je sais où je l'ai pas été. C'est ma situation, j'accepte en tant que telle. Vraiment, je cherche à prendre le plus de recul dessus pour pouvoir aider le maximum de personnes, comme je le fais en tant que journaliste bénévole, tu vois. Alors, mon père, c'est un cadre supérieur, on peut dire. Et ma mère est professeure de danse. En fait, ils m'ont aidée d'un point de vue socialisation. Il n'y a pas eu vraiment d'aide scolaire, mais plus dans les normes. Pouvoir avoir un langage extrêmement construit comme je l'ai aujourd'hui. De pouvoir vraiment avoir comme une manière de se tenir qui aussi... qu'on retrouve pas mal dans les classes supérieures. Mais j'ai une manière de me présenter dont je sais que c'est beaucoup plus, qu'on peut plutôt le lier à des milieux beaucoup plus aisés. Ce qui est aussi, je pense, important, c'est que, ouais, on va dire que ma culture musicale, ma mère, elle travaillait le soir. Et donc, j'ai eu des babysitters, mais la plupart du temps, j'allais avec elle en salle de danse, et qui a fait que, même si je venais d'un milieu assez aisé où en fait j'avais les fonds pour pouvoir faire mes devoirs sur un bureau, j'allais dans sa salle de danse, on prenait une chaise, je faisais mes devoirs en me tenant à la chaise et elle faisait ses cours d'un autre côté et puis bon voilà. Donc en fait moi quand je te dis que j'ai vraiment pris de la culture un peu aussi bien du côté populaire moyen inférieur et moyenne supérieure voire supérieure, en fait ça a été vraiment pas mal dans les fréquentations que j'ai eues au fur et à mesure du temps. Donc en fait, il y a eu beaucoup de mélange de ce point de vue-là. Cela fait que, par exemple, mes amis, j'ai ma meilleure amie qui enchaîne des boulots de femme de ménage, périculture et tout ce qui va être dans le domaine de la maternelle. J'ai un autre ami qui est ingénieur, j'en ai un autre qui est menuisier, j'ai toujours brassé assez large. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important et qui a fait que dans des moments où je me sentais extrêmement mal, ou en fait, dans des moments de joie, ils étaient présents. Et on va justement venir à un point qui était important. Donc, comme je te dis, je sors quasiment première de classe d'un lycée. Mes parents me disent on s'attendait pas que toi ça marche aussi bien, mais alors pas du tout. Parce qu'il faut savoir que je suis au milieu d'une famille de 3 enfants et je suis la seule fille. Donc, on va dire que mes parents portaient un petit peu plus d'espoir sur mes deux frères, où eux, ils s'attendaient beaucoup plus à ce qu'ils intègrent une école d'ingé, que moi, si j'avais le bac déjà, c'était un miracle. Donc, on n'avait pas beaucoup d'espérance. Donc, autant dire que quand ils ont vu mes notes du bac de français, oui, qui montraient que, de toute évidence, je suis peut-être brillante, ils se sont dit, on va peut-être l'orienter vers la prépa. Mais comme je t'ai dit, moi, mes parents, ils viennent, c'est classe populaire, classe moyenne inférieure. Donc, quand ils te disent tu vas faire prépa, c'est débrouille-toi. Du coup, ça a été plutôt assez logique. J'ai fait, moi, je venais du milieu de ES. Donc, je suis partie vers une prépa qui préparait aux écoles de commerce.
Du coup, ton papa, il avait fait des études avant ou il n'y a que toi qui as fait des grands?
J'ai ma mère qui a son diplôme d'état en tant que professeur de danse, pas son bac. Et mon père, il est bac plus 1, c'est-à-dire qu'il avait validé la première année de BTS. Et puis après, il en a eu marre et puis il est parti bosser.
Tu disais que tu étais une nouvelle riche et le fait que les nouveaux riches ne sont pas acceptés. En fait, il y a ce côté de vous n'êtes pas accepté parce que vous n'avez pas les diplômes universitaires. Et pour être un vrai transfuge, il faudrait du coup avoir un capital économique plus, des diplômes plus, et le capital social qui va avec. Parce que toi, du coup, tu dois avoir un peu plus... aujourd'hui.
On va dire que ça a été, quand je dis nouveau riche, c'est vraiment beaucoup plus sur le capital économique qui se propose beaucoup plus. Mon père, il est dans un métier qui est encore aujourd'hui extrêmement, extrêmement développé. Donc forcément, justement, les salaires sont beaucoup plus négociables à la hausse. On va dire que le fait d'être en prépa, c'était un peu le hasard des choses. C'était vraiment pas prévu. Je vais quand même commencer à parler un petit peu en termes de généralité. Il est plutôt connu que dans les prépas parisiennes, donc qui sont beaucoup plus réservées ben, aux Parisiens, que les enfants soient préparés à aller en CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles, dès la sixième. C'est un fait. On nous en parlait déjà en prépa où eux, ils sont matrixés dès à peu près 11-12 ans pour dire, toi, tu vas aller faire de grandes écoles supérieures, parce que bien évidemment, il y a tout l'héritage qui va derrière et qui va être perpétué au fur et à mesure. Ou justement, en termes de reproduction sociale, on va être un peu plus. On va essayer de préparer mentalement la personne dès qu'elle rentre dans l'adolescence. Et dans mon cas, c'était pas du tout le cas. J'ai fait vraiment une prépa de région. Bon, quand même, pour préciser, je viens de région parisienne. Donc, j'avais les possibilités d'aller en prépa parisienne. Je ne l'ai pas fait pour des questions de transport. Je ne vais pas te le cacher, j'avais la flemme de prendre déjà 3 heures de RER par jour.
Si pour, hein, il y a tout un truc qui fait que les Parisiens, quand tu es intra, je sais pas, en dehors de Paris, c'est fait pour que, en vrai de vrai, ils viennent pas trop se mélanger avec les vrais Parisiens parce que c'est fait, tout est calculé un petit peu. Il y a pas mal de débats et de sources sur le fait que on est bien que pour venir travailler, mais pas pour trop faire non plus.
Et donc moi je fais ma prépa avec tout ce que ça peut engendrer en termes de ben c'est t'es dans le cadre où pendant 2 ans on va te dire bon bah à la fin il y a les concours et après il y a l'école de commerce. On va pas vraiment te demander qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie. Non, c'est pas intéressant. Mais c'est plutôt on veut que tu aies au vu du niveau que tu peux que tu as actuellement, on peut te suggérer d'intégrer les écoles de commerce du top 10, du top 8, du top 20. Je pourrais pas te citer les nombres, mais par contre, tu en as à peu près une trentaine qui sont certifiées post-prépa et sur lesquelles nous, étudiants en prépa, on va aller postuler. Et qui sont des concours vraiment spécifiques et qui ont été préparés par nos soins, par nos profs durant tout au long de l'année. D'où cet aspect très matrixé où en fait le concours, tu vas avoir plusieurs banques de concours sur lesquelles tu vas te positionner. Et bien entendu, plus une école est prestigieuse, plus elle va te demander en termes d'épreuves de faire tes preuves et d'avoir des épreuves les unes les autres. Et c'est aussi important de savoir que bon, malheureusement, je crois que ça risque de se perpétuer au cours de ces prochaines années. Mais on va dire que déjà dans ma prépa, on savait qu'il y allait avoir une ou deux personnes qui seraient dans le top 5. Pourquoi? Parce que bon, en fait, on était quand même des étudiants avec un niveau moyen. Bon, pour être honnête avec toi, on venait tous avec un bac à minima, avec un bac avec une mention. Il n'y a pas eu de vraiment 10. Non, c'était déjà enfin le minimum. Il avait mention assez bien. Et bien évidemment, le meilleur avait mention très bien. Et c'était vraiment. Oui, je ne vais pas te le cacher, il y a la sélection qui est faite, et c'est fait pour. Donc, on était dans cette situation où justement, on est complètement. Où nous, notre seul but de vivre, je pense pas que le terme soit si fort que ça, c'est on doit pouvoir réussir nos concours. Et réussir nos concours va appliquer deux choses. D'abord, avoir un très bon écrit, avoir un sens de logique. Avoir de l'esprit critique et de pouvoir vraiment d'être dans cette idée de quand on sera en concours, on doit répondre à notre question. Moi, dans mon cas qui vient d'économique, c'était énormément de dissertations, c'était faire des épreuves de maths, c'était savoir faire de la synthèse. Faire de la synthèse, ce qu'on va appeler en fait de la contraction de texte. C'est un exercice un tout petit peu différent de la synthèse dans la mesure où en fait tu dois en fait reprendre la manière dont tu as l'auteur de rédiger pour pouvoir en faire une synthèse, mais qui se rapprocherait du style de l'auteur, tu vois. Et c'est un exercice qui est extrêmement complexe, je vais pas te le cacher, et où moi heureusement ça me sert encore aujourd'hui. Et on va dire qu'il y a pas mal de choses que j'ai fait en prépa qui me servent encore beaucoup aujourd'hui. Tout cet aspect langagière que je te parlais déjà auparavant, il va être réellement renforcé quand tu vas être en prépa. Et d'autant plus par ceux qui t'enseignent la culture générale, On n'utilise pas l'expression, par exemple, se baser sur, du coup. Et enfin, tous ces tics de langage que tu peux avoir au fur et à mesure, on te dit, ça, je ne veux pas sur ta copie. Ça, je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas. Ça, je n'en veux pas. Honnêtement, c'était des exercices extrêmement codés. Mais voilà, c'était vraiment pour que tout le monde ait un capital culturel. Ego, mais c'est vraiment un grand mot de dire ego dans la mesure où justement les personnes que j'ai connues en première année de prépa et celles qui sont parties, majoritairement, voire toutes, venaient de milieux populaires. Après, c'était, je sais que pour pas mal d'entre elles, c'était une évidence, c'est-à-dire on prend une année de prépa ensuite pour se réorienter à l'université. Ça se fait totalement et c'était l'un de leurs vœux. Il y a pas à discuter 5 000 ans et bon bah c'était ça. Mais on va dire que déjà, le fait que le brassage se fasse dès la première année, ça fait tout drôle. Je crois qu'on était à peu près 30-35 quand j'étais en première année et on s'est retrouvé à peu près à 20-25 en seconde. Donc en fait pour à peu près sélectionner ceux qui pouvaient prétendre à aller intégrer à minima le top 15 des écoles de commerce. Je pense que la prépa, c'est beaucoup de déstabilisation parce que, bon, bah, faut que j'en parle maintenant. T'as pas les mêmes notes que celles que tu avais au lycée. Tu peux facilement dire que tes notes sont divisées par deux, mais c'est le but du jeu. C'est vraiment, on pouvait laisser certaines choses passer quand tu étais au lycée. En prépa, c'est plus possible. C'est claque. Et bien évidemment, tu vas avoir les effets du classement qui peuvent être plus ou moins importants en fonction de où est-ce que tu te situes sur de la prépa plutôt provinciale que sur de la prépa parisienne, mais que je pourrais un petit peu plus élargir à la prépa métropolitaine, où on va dire que la question de la pression est légèrement différente dans la mesure où les prépas provinciales. Elles ont l'habitude de mettre un petit peu moins la pression, un petit peu moins la pression. Dans les prépas un petit peu plus prestigieuses, c'est plutôt connu que la pression est mise au maximum et où justement il va y avoir des jeux de concurrence entre les élèves qui vont être présents. Ça n'a pas été le cas en prépa. De toute manière, on se foutait suffisamment la pression pour pas en avoir besoin du reste. Mais voilà, donc moi j'ai pas réussi ma seconde année suite à des problèmes, à des difficultés familiales extrêmement importantes, d'avoir mes concours et de pouvoir partir. Et on va dire que comme je suis quelqu'un qui a besoin d'aller faire, de conclure, de vraiment aller comprendre pourquoi j'ai pas compris et vraiment creuser davantage ma culture générale. Ça a été par choix que je suis repartie pour une seconde année. Donc ce qu'on appelle dans le milieu QB. Et bon, heureusement pour moi, j'ai eu une certaine aisance qui m'a pas mal servi lorsque j'ai eu mes concours et qui ont fait que ben, forcément mes notes, ce n'était plus la même chose. Je connaissais la pression, je connaissais pas mal de choses. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans mon cadre, vu qu'on vient de région parisienne, la stratégie à adopter quand tu te présentes un concours, c'est de ne pas candidater en région parisienne, mais d'aller candidater en province. L'idée, c'est que, en fait, c'est toujours une question de concurrence. C'est tu vas pas aller, c'est que si tu restes à Paris, bah justement, tu as les prépas parisiennes qui ont un niveau quand même plus important que toi. Parce que, en plus de ce qu'on a pu leur apporter au départ, t'as toute leur éducation, t'as toute leur socialisation qui est passée par là. Donc, ou toi, bah, en fait, par effet d'élimination, tu vas plutôt chercher à fuir en province, où tu vas, on va dire, retrouver des niveaux scolaires qui vont être proches des tiens. Et tu vas même avoir cette question de stratégique ou dans quel type de ville de province je vais aller me mettre. Par exemple, si tu as fait une LB2 en espagnol, tu vas aller plutôt côté allemand. Parce que bon, bah, logiquement, ils ont plus d'intérêt à aller étudier l'allemand que l'espagnol. Et donc en fait, la prépa, c'est quelque chose qui est très stratégique. Et où justement, on te met une pression, où tu te mets une pression énorme, où on t'en met, où tu vas les deux combiner. Où on te dit, toi, ton seul objectif dans 3 ans, dans 2 ans, ça va être de passer un concours et d'aller dans une des meilleures écoles de commerce en fonction de ton niveau. Voilà, c'est clairement toute ta vie. Les vacances, les vacances, bien sûr. Non, des révisions. Et tu vas même y passer, tu vas passer toutes tes vacances en révision. Les grandes vacances. Non, c'est pas les grandes vacances, c'est aussi 2 mois de révision. Et voilà, j'arrive enfin, je suis acceptée en école de commerce. Parce que bien évidemment, t'es aussi, si t'as pas encore compris qu'il y a une inégalité économique, bah, faut aussi que tu fasses le tour de France pour aller voir tes écoles de commerce. Il faut de l'argent. J'ai une amie justement qui a dû cuber parce qu'elle n'avait pas l'argent pour aller à ses oraux.
En prépa, tu prépares que l'école de commerce ou tu peux faire autre chose avec une prépa?
Dans mon cas, tu pouvais uniquement aller en école de commerce. Par contre, si tu t'orientes sur du littéraire, tu peux aller sur Sciences Po, tu peux aller à ENS, tu peux aller aussi en école de commerce. C'est aussi une base quand tu es en scientifique. Bon, bah, tu vas en école d'ingé. Mais on va dire que, en fait, moi, c'était uniquement mon objectif. Je pouvais pas prétendre aller postuler à ENS, je pouvais pas prétendre aller postuler à Sciences Po. J'aurais pu le faire en tant que tel. Mais ce n'était pas pour ça qu'on me préparait. Moi, c'était vraiment école de commerce au maximum, même si je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie.
La prépa, c'est gratuit et l'école de commerce, elle est payante.
Alors, en fait, la prépa, en fait, la prépa, en théorie, c'est dirigé par l'éducation du supérieur. Donc, on était dans un cadre gratuit. Mais par contre, tu as aussi les lycées privés, où justement, tu vas retrouver les prépas les plus prestigieuses qui en proposent. Mais en tant que telle, la prépa, c'est fait pour être gratuit et ouverte à tous. Comme je t'ai pu le dire, officieusement, c'est pas ce qui est fait. Mais dans l'idée, tu es toujours dans la question méritocratique qui veut que la prépa, ben, tu y vas. Parce que, ben, en fait, c'est l'éducation du supérieur qui va investir. Je vais peut-être dire une ânerie, donc il faudra peut-être revérifier les chiffres, mais qui investit par an pour toi entre 10 000 et 30 000 euros. Un élève de prépa coûte à l'État entre 10 000 et 30 000 euros par an. Je pense que les personnes déjà qui sont en école de commerce, tu peux déjà avoir une idée de quel type de personne y va. Même si justement, bon, bah, les écoles de commerce misent de plus en plus sur du post-bac parce que bah, ça leur rapporte beaucoup plus d'argent. Tu en fait, que ce soit des postes bac ou des postes prépa, il me semble, mais il faut vraiment revérifier là-dessus, que tu vas retrouver exactement les mêmes origines sociaux. Tu vas retrouver les cadres, tu vas retrouver les artisans, tu vas retrouver très peu d'ouvriers, mais enfin, tu vas retrouver des boursiers en tout cas.
Du coup, j'ai origine sociale des élèves des classes préparatoires. En classe prépa, il y a 10,6% artisans, agriculteurs et tout ça. Cadre sup, il y a 49,5%. Prof intermédiaire, 12%. Employé, 10%. Ouvrier, 6%. Retraité ou inactif, 6,4%. Voilà, à peu près. Et l'ENA, ils sont 70% de cadre sup. Hein.
On va dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits côté prépa et côté école de commerce. Pour accueillir une origine sociale un petit peu plus accrue que ce que tu peux voir justement dans les milieux littéraires et scientifiques. Tu as beaucoup plus de reproduction sociale quand tu viens de prépa littéraire et scientifique que quand tu viens d'économique et sociale comme moi j'ai pu le faire. Il y a quand même un brassage social qui est un peu plus important que ce que tu peux retrouver ailleurs parce que justement t'as le capital culturel qui va jouer, mais t'as aussi d'autres caractéristiques qui peuvent jouer en ta faveur. Par exemple, si t'étais nul en lettres, mais que t'étais archi bon en maths, bah franchement, fallait pas faire le calcul 10 fois, et en fonction des coefs et tout ça, tu peux rentrer dans une bonne école de commerce. Mais par contre, comme je te disais, si tu veux avoir le top 5, bah, faut déjà aller en prépa parisienne. Tu vas retrouver HEC, tu vas retrouver ESSEC, ESCP, EM Lyon, et je crois que c'est là, c'est donc EM Lyon, et tu as EDEC. Et EM Lyon et EDEC, ce sont les deux seules du top 5 qui sont provinciales. Les trois premières que je t'ai nommées, elles sont toutes à Paris. Bon, elles sont toutes à Paris. T'as HEC qui a Perpète-les-Oies dans les 78. T'as l'ESSEC qui a Cergy-Pontoise. Et en fait, ESCP, c'est celle qui est uniquement incluse à Paris. Et c'est celle où tous les Parisiens y vont d'ailleurs. Donc, c'est à côté. Donc, pourquoi s'embêter? Et où justement, les barres d'admissibilité, forcément, sont également un petit peu plus faibles. Quand tu veux postuler du côté ESCP, faut t'attendre à avoir, je sais pas, 13, 14 de moyenne générale, mais tout au long de ta prépa. Moi, tout au long de ma prépa, j'ai tourné autour de 8 et 9. Enfin, 8 et 10, si je compte le cube. Donc, tu vois, enfin, on est sur une. Enfin, l'écrémage se fait également comme ça. Et où justement, bah, si t'as 14, bon, bah, faut pas se le cacher, c'est que t'es bon partout. Et que t'as aussi bien le capital culturel que la logique et tout ce qui va avec. Mais en général, comme je t'ai dit, ça vient de. Ça vient, c'est beaucoup de reproduction sociale. Les gens qui ont été à HEC, majoritairement, c'est parce que leurs parents, leurs grands-parents et leurs grands-grands-parents ont été. Il y a quand même cette culture de l'héritage que tu vas pas mal retrouver. Si ce n'est pas le cas dans le top 5, à minima dans le top 3. Je pense que je te conseille un petit peu d'écouter les neuroscientifiques qui parlent justement de la question des talents. J'en ai une en tête. Je pourrais pas te le dire parce que je suis nulle pour retenir les noms de famille et prénoms, mais justement qui parle justement de comment est développé le talent d'un point de vue cognitif et d'un point de vue culturel. Et où justement, ben, quand tu es dans un milieu aisé qui littéralement te donne tout, bon, ben, quand t'as maman qui est prof de mathématiques et papa qui est ingénieur, oh ben, c'est curieux que tu aies un prépa scientifique, franchement, on s'y attendait pas. Mais ces élèves-là ont énormément d'aide. Et ils sont également poussés à bout. Quand tu es en prépa, tu travailles entre 60 et 70 heures par semaine. Mais même pour les meilleurs.
Parce on pense toujours que la maltraitance, elle se fait via la violence physique dans les classes populaires et tout, mais dans les classes sup, il y a beaucoup, beaucoup de pression
Bien sûr.
via les cours, via les normes de prestige, etc., etc. Et du coup, souvent, je donne l'exemple un peu de dire, c'est comme si ton parent, en fait, il était bilingue, trilingue, et que quand tu étais petit, tu apprenais trois langues, il te parlait en trois langues, ben, quand tu grandis, en fait. Bah, tu sais parler 3, 4 langues, 5 langues de façon facile parce que tu l'as appris en tant qu'enfant, plus tout le reste. Et ça fait que c'est un avantage et un privilège considérable quand tu évolues dans ces milieux, quoi. Tu ressentais un peu la violence de tout ça ou tu te sentais comment
Quand j'étais en prépa, en fait, j'aidais également ma mère à être avec. J'étais, en fait, c'était simple. Ma prépa était située pas très loin de son école, de là où elle faisait ses cours de danse. Donc en fait, moi, quand je quittais la prépa, j'allais la rejoindre pour l'aider pour ses cours. Donc si tu veux, j'ai jamais complètement coupé avec le milieu populaire. Et d'autant plus que c'est à ce moment-là que j'ai eu mes meilleures amies, qui, comme je te l'ai dit, femme de ménage et puis menuisier. J'ai toujours eu les pieds sur terre. Parce que justement, je les avais eux. Parce que j'avais également les cours de ma mère où je voyais des personnes qui ne se préoccupaient pas d'avoir une prépa, mais enfin, par contre, se préoccupaient de l'avenir de leurs enfants. J'étais pas trop dans ces problématiques de pouvoir finir les fins de mois, mais je sais qu'il y avait certaines femmes qui étaient en difficulté de ce point de vue-là. J'ai toujours vu beaucoup de mixité. Et c'est pour ça, en fait, que peut-être que moi, je l'avais moins perçu cette violence-là, mais là où en fait où je l'ai réellement perçu, c'était en école de commerce. Mais bon bah je vais pas te le cacher, ceux qui y viennent, ce sont les meilleurs. Et c'est plus facile pour eux d'accéder à des meilleures écoles de commerce que moi j'ai pu l'avoir à mon niveau. Mais par contre, c'était quand même des personnes qui avaient quand même scolairement un excellent niveau. Tu passes d'une prépa où justement c'est avant tout l'excellence, le capital, le culturel qui est quand même très mis en avant à bon bah tout ce que tu as appris, tu le mets un peu de côté. Maintenant, on va t'apprendre à vendre un truc, on va t'apprendre à l'acheter, on va t'apprendre à être la meilleure consommatrice que tu puisses l'être. Et justement, les personnes avec qui j'ai été en prépa, c'était majoritairement. Je ne vais pas tous les mettre dans un même panier, et ceux qui écouteront mon témoignage et qui sont partis en école commerce, je tiens à le dire, je ne vous mets pas dans le même panier. Mais c'est des personnes qui déjà, de base, sont de grands consommateurs, qui sont vraiment dingues, dingues de shopping et qui adorent acheter. Et ce n'est pas étonnant qu'ils viennent en école de commerce. Moi, ça l'était un petit peu plus parce que ben, moi, j'ai été éduquée dans cette forme beaucoup plus capitale culturelle qui m'a permis de sortir et qui m'a permis d'aller dans des en études supérieures. Mais en fait, j'ai retrouvé exactement les mêmes personnes avec qui j'ai grandi. Et bien évidemment que j'allais les retrouver. Je n'étais pas étonnée. Mais c'était sûr qu'on allait encore me parler de la dernière veste à la mode. Est-ce que vous avez vu la dernière technologie? Ce sont avant tout des personnes qui se définissent par leur consommation. Tu vas pas forcément alors perdre un point de vue complètement dans cet aspect ostensible, mais elles sont définies par ça. Elles ont besoin d'en parler. Du coup, ben, ils étaient parfaitement intégrés en école commerce. Aussi, point très important en école commerce. C'est le moment où on t'apprend à aller vers les autres et à aller vers l'autre par intérêt. Ou j'ai besoin de ton aide pour décrocher un stage, j'ai besoin de ton aide pour aller décrocher un job, est-ce que tu veux bien m'aider? Et donc tu rentres dans la partie réseautage.
Ouais, c'est le capital social qui est très 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 important.
Et là où justement, c'est parti pour en école de commerce pour le développer au maximum. Par contre, les associations, le fait d'aller rencontrer un maximum de gens, les événements du soir, bien évidemment. Alors ça, si tu le rates, t'as littéralement loupé ton école. Et c'est d'autant plus encouragé que je sais que ça se fait à peu près dans toutes les écoles, tu as des projets à valider. Et les projets, bon, bah, t'as envie de créer ta propre association, t'as envie d'aller aider les gens, ou alors t'as envie de t'intéresser à la bourse. Enfin, dans tout ce que tu veux faire, eh ben, tu bâtis un projet, et on va t'apprendre à gérer le projet de A à Z. Et ça tombe bien. Parce que dans les débouchés que tu as en école de commerce et management. Et justement, dans management, le plus important, c'est la gestion de projet. C'est de savoir comment tu vas gérer une équipe. Une école de commerce, ça coûte actuellement, et là je pense que je peux englober à peu près toutes celles que je connais, ça coûte, avant quand j'y étais, ça coûtait moins cher. Donc ça te coûte entre 30 000 et 50 000. Tu vas pouvoir, la première année, vu que tu es sur un tronc commun, à part une école commerce, tu dois le passer. Après, quand tu vas y être sur tes années master, ben, l'alternance, ça se fait. Et ça se fait même très bien, ça se fait encore plus en M2. Et donc, ça permet justement, ça te permet de payer. Ensuite, bien évidemment, quand tu as un peu moins les moyens, tu contractes des emprunts pour vivre sur place. Parce que, bon, ben, comme je te le dis, quand tu es dans une école de commerce mais que tu as un élève moyen, bah tu vas majoritairement dans des écoles de commerce qui ne sont pas dans la ville où toi tu as grandi et où justement c'est le moment où tu quittes le foyer familial. Et donc bah tu vis en appartement, tu dois quand même avoir tu as ta vie quotidienne à gérer, où justement une majorité des étudiants ils vont prendre un emploi à côté. Tu as aussi le système de bourse CROUS dont je t'ai parlé tout à l'heure qui aide. Peut-être pas tout le monde, mais on va dire que c'est le seuil de pauvreté que tu vas pas dépasser, on va dire.
Voilà, parce que le plus haut statut en tant que boursier, du coup, c'est l'échelon 7, puisque j'ai été échelon 7 toute ma vie. C'est 500 ou 600 euros par mois.
Le logement CROUS que moi je voyais, le 9 mètres carrés, il était à peu près à 100 et 300 euros par mois. Et au plus haut, c'était aux alentours de 520 et tu avais un 20 mètres carrés, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et encore, bon, bah, je suppose que ça a dû augmenter entre-temps. Donc en fait, oui, voilà, tu as un différent système de gestion. Et justement, par rapport aux emprunts, si toi, tu n'es pas solvable, ou bon, bah, justement, tu viens d'un milieu relativement populaire, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va te dire, ah, bon, tes parents peuvent pas supporter ne peuvent pas être garant à ta place. Bah, on va aller chercher un garant pour toi qui comme que tu vas devoir persuader pour qu'il puisse faire cet emprunt à ta place. Et comme ça, bah, une fois que tu as fini, bah, c'est lui que tu dois rembourser. Et puis si jamais tu n'es pas solvable, bah, ça sera normalement c'est à lui que revient la charge. Mais c'est à confirmer. Je pourrais pas, j'en suis pas certaine. Soit ben c'est à tes frais. Et curieusement, ben les soirées, ça fait partie du capital social. Donc bon, en tant que tel, c'est pas l'école qui organise toutes les sorties. Ce sont uniquement les associations de l'école. Donc elles peuvent pas considérer être comme responsables. Mais par contre, c'est pour aller justement réseauter dans ces milieux-là où ben, tu vas te prendre une cuite tout au long de la nuit, sans rencontrer les démons de minuit. Peut-être. J'y suis jamais allée, donc je pourrais pas te le certifier. Mais c'est du capital social, ce sont des bonnes expériences. C'est là où justement, ben, tu peux dire, hey, Jérôme, tu te souviens de cette nuit où t'as encore fini à poil chez dans une telle ou telle soirée? C'est pas ben, une histoire, ben, je l'ai inventée. Mais ça crée du lien. Et ça fait partie de l'esprit du réseautage. Tu peux avoir aussi des cadres de biseautage. Et c'est normé. C'est tout à fait normé. Mais par contre, officieusement, c'est très très officieux. Moi, dans mon école de commerce, on disait clairement, si vous faites ça, pénalement, vous risquez ceci, ceci et cela. Et nous aussi, on pourra également intervenir pour vous voir, vous renvoyer, etc. Mais en soi, ben, les sorties se font à l'extérieur de l'école de commerce. Les associations sont assez peu financées par les écoles de commerce. Donc la responsabilité là-dedans, ne l'est pas. Et ça conduit à ça peut conduire à des débordements. Je pense qu'il y en a beaucoup moins qu'auparavant parce que les écoles de commerce ont quand même fait un effort, mais aussi parce que bon bah d'un point de vue réputation, quand tu veux souligner les dérives du supérieur, eh ben qui est-ce que tu vas aller voir? Eh ben les étudiants d'école de commerce. Et bon, tu vois, c'est la culture du réseautage. Je dis pas que c'est quelque chose de mal. Honnêtement, j'ai pas à avoir d'avis là-dessus. Enfin, dans la mesure où, ben, tu vas être éduqué à faire ceci. Et ceci, ben, c'est hyper important pour la vie professionnelle. Ça me tue d'avoir été obligée de passer par du réseautage pour sortir de 1 an de chômage. Parce que, bon, bah, communication, métier qui est complètement bouché. Où je vois de plus en plus de formations se développer pour aller dans ce type de métier, ça me rend dingue. En fait, ça rend dingue toutes les personnes qui sont justement en galère en communication, qui cherchent un poste de salarié, qui aimeraient bien en trouver, mais qui n'en retrouvent pas, ne serait-ce que par ne serait-ce que par des offres d'emploi, parce qu'à chaque fois qu'une offre d'emploi se précise, t'as un grand minimum entre 20 et 50 personnes qui vont aller sur sur cette offre d'emploi.
Du coup, en vrai, le réseautage, c'est quelque chose qui est hyper important dans tout, moi, dans la recherche. Enfin, je pense que dans les études supérieures et tout ça, pour travailler plus. Alors, le capital social est très important pour beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, j'ai fait une licence à l'ancienne. Enfin, j'ai fait trois licences, dont une qui était. Ça mélangeait communication et informatique. Et j'ai beaucoup de gens qui étaient en com, qui ont fait du coup un master genre de com payé par l'État, là, nanana. Et tous les gens que je connais qui sont allés en communication ou en com digital et tout, ils ont eu le travail à la sortie, quoi. Bah, à part dans des trucs où ils étaient pas du tout contents parce qu'ils s'attendaient à mieux, quoi. Mais c'est des trucs qui sont hyper bouchés. Et en plus, tu vois, genre là, t'as fait une école de commerce et c'est encore différent. Mais là, il y a beaucoup de gens qui font des masters qui sont pas du tout reconnus par l'État et qui payent, genre, enfin, après, l'école de commerce aussi, c'est payant de ouf, hein, mais c'est sorti du cadre. Mais il y a beaucoup, beaucoup trop d'écoles où tu payes et tu sors de là. Et en fait, si t'as pas été capable de faire ton réseau toi dedans, tu peux payer des milliers et des milliers, tu sortiras sans travail, quoi.
Et moi, je le sais parfaitement. C'est pour ça que moi, je suis en colère vis-à-vis que on propose à d'autres personnes des formations, ne serait-ce que via Pôle emploi, via différents organismes, pour dire reconversez-vous en communication, alors que les personnes qui sont là et qui ont fait des études, qui ont fait des stages pendant des années et de l'alternance, je t'en même pas, disent bah, nous, on n'arrive pas à trouver, donc vous qui essayez de vous reconvertir, ça risque d'être compliqué. Mais par contre, la carte que tu peux sortir en tant que personne en école de commerce, ah bah je trouve pas de boulot, c'est pas grave, je vais me mettre en freelance. Parce qu'en tant que tel, on m'a avant tout appris à diriger une entreprise financièrement, d'un point de vue de la supply chain, d'un point de vue de beaucoup de choses. Donc en fait, moi, mes services, je peux le proposer en freelance, je peux monter ma propre boîte, j'ai les capacités pour. On m'a appris à créer une entreprise. Et c'est comme ça qu'en fait, toutes les personnes que j'ai connues et qui ont suivi à peu près le même processus s'en sont sorties. Mais il n'empêche que ben, sortie de prépa, enfin sortie d'école de commerce, pardon, ben, je suis arrivée à un moment où ben, faire une école de commerce, ça n'a pas suffi. Dans la mesure où ben, tu te confrontes à à la dure loi du marché du travail. Heureusement que d'un point de vue psychologique, je suis extrêmement forte. Parce que, enfin, je suis extrêmement forte. Qu'on se comprenne. J'ai les codes, j'ai les capacités intellectuelles conforme à ce qu'on attend de moi, comme tu le dis si bien. Je suis un bon soldat. Mais en parallèle, j'ai eu des difficultés dans ma vie qui ont pas mal, qui me permettent de, quand je vais assez mal, de pouvoir rebondir, quoi qu'il arrive. Et je parle plus de force de ce côté-là, pas de l'autre côté. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir un contexte qui m'a permis de pouvoir faire face à des difficultés et ne pas me soucier de l'argent. Et c'est un fait. Mais le marché du travail, j'ai dû postuler à une centaine de candidatures et j'ai décroché deux travail. Enfin, franchement, d'un point de vue rendement, et même en ayant personnifié le CV, en ayant fait tout ce qui en allait, bah, ça sortait pas. Mais parce que le marché du travail en communication est complètement bouché.
Et puis surtout que j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup les enfants d'eux qui auront les meilleurs emplois de toute façon, qui n'ont pas besoin de déposer des milliards de candidatures et qui vont... Enfin, même ceux qui font HEC et tout, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ils font HEC, ils sortent de là, ils récupèrent une entreprise où ils vont travailler avec quelqu'un et ils n'ont pas besoin de faire tout ce que... j'ai l'impression qu'on ment... Enfin, c'est... ouais, pour moi, c'est un peu du mensonge où on te promet, ben, c'est ce que... Enfin, tu le dis très bien avec la méritocratie de « oui, mais t'inquiète, tu travailles beaucoup, mais en sortant de là, tu verras et tout, et tu sors de là, ben... » Enfin, c'est la réalité te rattrape assez vite quand même.
Mais on va dire que tu sors quand même de là... beaucoup plus d'outils qu'une personne qui n'aura pas fait les mêmes études que toi. Donc à partir de ce moment-là, tu sauras mieux comment te rattraper. Mais en fait, j'insiste plus sur cette particularité de comme en fait, tu as un cursus qui est suffisamment général, bah, si tu as envie de bifurquer plus tard, il n'y a pas de problème. Et c'est plus cette frustration d'entendre des personnes dire les cours, ça ne sert à rien et tout. Ou moi, quand j'ai décidé de un petit peu bifurquer, quand j'ai décidé d'aller voir un petit peu ailleurs, ah bah oui, je comprenais parfaitement les bases, vu que bah, on me les avait enseignées.
Le truc, c'est qu'il y a quand même un truc dans la recherche, dans le HESS et dans plein de masters, enfin, où tu fais des études de recherche, c'est que si, en vrai, du moment où tu apprends la méthode de la recherche, bah, en vrai, tu peux travailler sur n'importe quoi. Il y a beaucoup de sociaux qui font de l'histoire, etc. Parce que d'habitude, tu sais, t'as vraiment ceux qui font de la socio, ceux qui font de l'histoire, ceux qui font de la psycho. Mmh. Mais en fait, quand t'as appris la méthode et que t'as appris à la base, bien, bah, logiquement, tu peux la réappliquer à des trucs similaires. Par exemple, moi, je serais nulle en commerce, c'est sûr et certain. Tout ça, je sais pas. Mais en recherche, je pourrais faire de l'histoire si je voulais ou je pourrais faire autre chose.
Sachez une chose, vous êtes tous doués pour un domaine. Et il n'y a personne qui pourra vous l'enlever. Vous aurez certes des personnes qui seront meilleures que vous, d'autres qui seront peut-être un peu moins meilleures que vous, mais ce n'est pas grave. Vous avez tous vos talents. Le plus important, c'est vous.
Et puis en plus, on n'est pas forcément plus heureux quand on fait des grandes écoles. Il n'y a pas de mieux, de pas mieux, il y a juste chacun suit son chemin. Et je pense qu'on a vraiment un truc à idéaliser les gens qui sont de classe sup ou les bourgeois, les aristos et tout, parce qu'il y a un truc de mépris.
Il y a différents types d'intelligence et c'est pour ça que je parle de chacun ses propres talents. Ce qui est important, c'est que ben, c'est pas parce que vous êtes chef d'entreprise que vous êtes forcément que vous avez une intelligence sociale ultra développée. Ce n'est pas parce que vous avez réussi vos études que vous savez être diplomate. Ce n'est pas parce que vous venez d'une grande école que la vie va être rose tous les jours pour vous. Mais ça ne veut pas dire que vous valez moins que n'importe qui. Mais ça serait c'est complètement ridicule de dire ne vous comparez pas à telle ou telle personne, parce qu'on le fait tous. Mais on le fait parce qu'on est des animaux sociaux. Mais gardez vraiment en tête que qui vous êtes, c'est ce qui compte le plus.
En espérant que cet épisode t'aura plu, n'hésite pas à me donner ton avis et même à me retrouver sur Instagram Léachou avec deux E. Si jamais tu souhaites me soutenir financièrement, c'est possible via mon Patreon où je fais du contenu exclusif.